Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe après un sommet européen à Salzbourg consacré aux migrations et au Brexit, alors que l'Autriche détient la présidence tournante de l'Union européenne. Nous avons le plaisir d'accueillir une Autrichienne qui est aussi la ministre des Affaires étrangères de ce pays.
Karin Kneissl, bonjour.
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 Alors, vous êtes diplomate de formation, vous êtes énarque, vous avez travaillé pendant 8 ans au ministère autrichien des Affaires étrangères dans les années 90, avant de reprendre votre liberté de parole pour exprimer des positions au vitriol à l'égard des dirigeants européens. Vous critiquez Angela Merkel au moment de la crise migratoire, Jean-Claude Juncker après le vote du Brexit. Et c'est avec le soutien du FPÖ, le parti d'extrême droite, que vous devenez ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de coalition formé par le jeune conservateur Sébastien Kurz en 2017. Cet été, vous accédez à la célébrité mondiale à cause d'un invité polémique à votre mariage, le président Vladimir Poutine.
Alors, Karin Kneissl, vous êtes en duplex avec nous depuis Vienne, la capitale, et on commence sur les thèmes un peu brûlants de ce sommet informel qui se tenait donc jeudi à Salzbourg. D'abord, le Brexit. Hein. Theresa May veut s'en tenir au plan Chequers, qu'elle définit comme le meilleur possible, alors que les Européens le jugent très insuffisant. Elle réclame la liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, mais pas du tout des personnes. Bref, est-ce que vous avez l'espoir véritablement qu'on va avancer sur ce dossier sous votre présidence et qu'on va même conclure, ou alors ça sera la sortie chaotique ?
Si je peux commencer par le fait que c'est pas la présidence autrichienne qui est en première charge de ce dossier, c'est le commissaire Michel Barnier. Il négocie au nom de 27 de l'Union européenne. Et là-dessus, on a une cohésion qu'on trouve pas dans d'autres dossiers. Et c'est, l'Autriche soutient le commissaire Barnier. J'avais l'occasion de l'accueillir à Vienne à plusieurs reprises. Et notre travail consiste tout d'abord de le soutenir dans son travail.
Mais jusqu'où vous pensez qu'on peut réussir quand même ?
Mais tout dépendra après du processus parlementaire au sein de 27. Donc nous parlons là des dates changeant entre fin octobre, mi-novembre. Et les négociations sont accomplies sur 90% du dossier. Il manque 10%. Moi, j'envisage un voyage à Londres et à Dublin fin octobre pour apprendre, comprendre encore un peu mieux où seront certains points qu'on peut résoudre, mais toujours sous l'égide du commissaire Michel Barnier. C'est lui qui est en charge.
Alors, pendant ce sommet, on a entendu des propos assez étonnants dans la bouche du Premier ministre de l'île de Malte, Joseph Muscat. Pour lui, la meilleure solution, ce serait de convoquer un nouveau référendum. Et il n'est pas le seul à le dire tout haut. Le Premier ministre tchèque a tenu des propos similaires. Vous aussi, vous pensez que les Britanniques doivent à nouveau voter ?
Vous savez, moi, je fais partie de ces disciples de droit des affaires internationales qui appliquent l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies qui parle de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et à mon avis, c'est uniquement l'affaire des Britanniques. Moi, je prononcerai aucun commentaire sur un tel sujet.
Alors, le parti qui vous soutient, le FPE, hein, on l'a dit, était jadis favorable avant ces élections, hein, peut-être à une sortie de l'Autriche de l'Union européenne. Il a changé d'avis depuis les dernières élections. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait un bénéfice, puisqu'on parle du Brexit, de l'Uxit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, ou encore de la sortie de l'euro pour votre pays ?
Absolument pas. Et si je peux me permettre de vous corriger, et peut-être on a aussi l'occasion pendant cet entretien de changer un peu la définition très rapide que vous aviez mise sur ma personne, que je trouve un peu ambiguë pour dire la moindre des choses, parce que je suis un peu plus de ce que vous aviez dit tout d'abord. Mais le parti FPE n'a jamais parlé, le long de la campagne électorale de l'année passée, d'une sortie de l'Union européenne. Si vous pouvez me donner une citation à propos...
Non, il n'en a pas parlé l'année dernière. C'est précisément ce que je viens de dire. Il en parlait avant.
Oui, mais donc, et moi, je parle de l'actualité. Je ne parle pas maintenant là des décennies qui ont passé. Et actuellement, moi, je ne suis pas au courant d'une position d'un protagoniste de parti qui préconise une sortie de l'euro ou une sortie de l'Union européenne.
Et quelle est votre position à vous ? Vous êtes une européenne convaincue ?
Oui, une européenne tout à fait convaincue. J'ai eu le privilège d'étudier dans un pays où, contrairement à nos voisins tout à fait voisinage très près, de faire mes études ici d'une façon de libre venant d'un background assez modeste, j'avais l'occasion de faire mes études aussi grâce à des bourses à l'étranger. Et je parle 5 langues européennes et 2 langues qui sont pas de l'Europe exactement. L'arabe et l'hébreu. Et alors, je parle le hongrois, un peu le français, anglais, espagnol et italien. Donc je me considère dans mon esprit, dans ce que je suis devenue le long de ces 53,7 années, européenne. Oui.
Karine Kneissl, si vous voulez bien, on va parler de l'autre thème qui était très très important pendant ce sommet, c'est celui de la migration au cœur des discussions mercredi soir à Salzbourg. Votre Premier ministre Sébastien Kurz soutient la délocalisation des centres de tri des migrants dans les pays tiers, en particulier en Égypte, un peu sur le modèle de l'accord qui était passé avec la Turquie. Vous êtes favorable à cette proposition ?
C'est un thème que nous discutons déjà depuis un certain temps et c'est là où aussi certains commissaires, comme notamment le commissaire Avramopoulos, avaient aussi des échanges avec moi. Et on est dans l'action encore de trouver là-dessus des partenaires.
Alors, est-ce que ça pose pas des problèmes quand même un peu moraux de sous-traiter le premier accueil des migrants à des pays peu démocratiques, comme justement on a parlé de l'Égypte, on parle d'autres pays en Méditerranée?
Oui, mais quand on regarde par exemple ce qui s'est passé l'été passé entre la Libye et l'Italie, l'Italie qui a des liens historiquement très proches avec la Libye a fait de son mieux pour avoir un nombre d'accords bilatéraux avec des maires, avec des tribus, avec des chefs de tribus, pour faire chose pareille que beaucoup de pays européens, dont la France, l'Italie et l'Espagne, avaient fait déjà dans les années 90. Si je peux vous rappeler le processus de Barcelone, qui date de décembre 95, on avait déjà traité le sujet de la migration, d'investir dans les pays d'Afrique du Nord, aussi créer des partenariats de migration. Donc c'est pas un sujet qui est né avant-hier, c'est un sujet que notamment des pays méditerranéens comme l'Italie et la France ont chose à faire depuis une bonne vingtaine d'années.
Alors là vous parlez des projets de développement et non pas du projet d'accueil des migrants.
Oui, mais les projets de
très bonnes choses bien distinctes.
Mais dans les... Oui, certainement, il y a une distinction à faire là-dessus, mais il y avait aussi des partenariats entre les pays européens et la Tunisie et la Libye dans le passé de charger, si vous voulez, de sous-traiter, c'est le verbe que vous aviez utilisé tout à l'heure, et de se charger du contrôle des frontières en Afrique du Nord. On avait déjà cette situation dans le passé.
Mais on voit bien aujourd'hui que c'est ce qu'a pu constater certaines agences des Nations Unies, qu'en Libye, il y a des véritables prisons où les migrants sont détenus, parfois réduits en esclavage. Donc c'est un peu délicat d'envisager de sous-traiter avec des pays qui n'ont pas...
Absolument, c'est très très délicat. Depuis la destruction de la Libye, suite à cette opération, En 2011, on a un pays complètement détruit. Et le problème, ce ne sont pas les Libyens qui souhaitent faire l'exode, ce sont des gens qui viennent à travers la contrebande en Libye.
Alors,
donc il faut, comme l'Italie l'a fait d'ailleurs l'année passée, de traiter ça avant tout.
Alors, vous nous expliquez votre vision de la migration. Justement, cette question migratoire, elle a été au centre, au cœur du scrutin chez vous de 2017, où le FPE est arrivé à égalité avec les sociaux-démocrates autour de 26% des voix. Le discours anti-migrant de ce parti a ouvert les portes d'une coalition avec les conservateurs. Et depuis, vous appliquez dans ce gouvernement Kurz une politique très restrictive à l'égard des étrangers. On regarde ce reportage.
Malgré les critiques de l'Union européenne, l'Autriche veut prolonger les contrôles à ses frontières. Inutile, selon les associations d'aide aux migrants, la priorité devrait être donnée aux 115 000 réfugiés et 46 000 demandeurs d'asile qui vivent déjà en Autriche. Erich Fenninger, directeur de l'organisation Volkshilfe.
Le gouvernement actuel a déjà réduit les moyens alloués à l'intégration, et ce, de plusieurs millions d'euros. Ils exercent une grande pression pour que ces personnes quittent notre pays.
Arrivée au pouvoir en décembre dernier, la coalition formée par les conservateurs et l'extrême droite multiplie les annonces visant réfugiés et demandeurs d'asile. Pourtant, les arrivées ont chuté. 89 000 demandes d'asile déposées en 2015 contre 24 000 en 2017. Franz Merli, professeur de droit à l'université de Vienne.
Il faut noter que ce gouvernement est arrivé au pouvoir en grande partie en raison de la question de l'immigration. Maintenant, cette question n'est plus très importante en Autriche, mais ils veulent la maintenir au centre des préoccupations, car cela fait partie des raisons pour lesquelles ils sont au pouvoir.
Préoccupé par la situation en Autriche, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé l'envoi d'une équipe pour évaluer la protection des migrants dans le pays.
Alors, Karin Kneissl, avec cette politique restrictive vis-à-vis des migrants, ils n'ont plus accès à l'apprentissage, vous voulez les priver du droit de langue, etc. Cela préoccupe les Nations Unies, on l'a vu.
Excusez-moi, est-ce que je peux vous corriger? Tout d'abord, moi aussi, dans un ministère, je suis aussi en charge de l'intégration des réfugiés. Nous avons reçu plus que 100 000 personnes. Nous avons le plus haut nombre de réfugiés per capita. Et la France ne peut pas rivaliser avec cet accueil que nous avons fait le long des années 2015 et 2016. Je suis ici en charge de cours de langue, de cours d'orientation, de valeurs, etc.
Pourquoi les restreindre alors?
Rien, mais vraiment rien réduit.
Alors, les budgets ont été réduits.
Je suis en charge de ce dossier. Excusez-moi, madame, de vous corriger, mais moi, je suis en charge de ce budget et je n'ai rien réduit.
C'est ce que disent toutes les ONG qui se plaignent justement que l'intégration se fera moins bien.
Peut-être les ONG ne vous racontent pas la bonne chose. Je peux vous dire, en tant que ministre en charge de ce thème, je n'ai rien réduit et je l'ai dit au Parlement, je l'ai dit ici au public, je peux que répéter ce que j'ai fait depuis 9 mois, notamment d'assurer l'accès gratuit à ces cours.
C'est une priorité de votre gouvernement d'intégrer les réfugiés, c'est une priorité de votre gouvernement, vous souhaitez qu'ils restent sur votre sol?
Absolument, parce que moi j'ai dit, on fait de notre plus possible qu'on n'envisage pas une crise d'intégration après qu'on avait vu une crise de migration. Donc, ceux qui ont reçu le statut de réfugiés, ils ont accès à une aide de 850 euros par mois. Ils ont accès aux services de santé, etc.
Madame la ministre, donc, vous êtes favorable à l'intégration des étrangers qui sont présents sur le sol autrichien, mais vous avez aussi...
Est-ce que je peux vous corriger là encore une fois? Qui ont reçu les statuts de réfugiés reconnus selon la Convention de Genève.
Donc les autres, vous voulez les expulser?
Non, mais je parle que de gens qui ont reçu les statuts de réfugiés en tant que... Il y a les demandeurs et il y a ceux qui ont reçu les statuts. Plus, certainement, nous avons aussi une grande diaspora de gens du monde entier et certains sont intégrés parce qu'ils ont trouvé travail. Et d'autres touchent, nous avons plus que 50% de la population étrangère qui touche l'aide sociale.
Alors, vous avez aussi rétabli les contrôles à la frontière. Sur le fond, est-ce que vous croyez
comme
encore...
Comme d'autres pays aussi, comme l'Allemagne et comme d'autres pays aussi.
Oui. Sur le fond, est-ce que vous croyez encore à la libre circulation au sein de l'espace Schengen?
Oui, mais c'est ça la grande question, parce que nous avons vu d'ailleurs déjà après 2011, et je me souviens dans le temps, Berlusconi était premier ministre italien, lui, dans le temps, quand il y avait
des premiers... Mais parlez-nous de l'actualité. Vous avez insisté, vous vouliez parler de l'actualité.
Oui,
alors parlez-nous d'aujourd'hui, ce qui se passe chez vous.
Oui, je parle d'aujourd'hui, mais parfois c'est utile de regarder vers quelques années de passé, parce que l'espace de Schengen n'a pas été infrigé seulement en 2015. L'espace Schengen est en limbo depuis 2011. Et c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Votre question, est-ce que l'espace Schengen va se rétablir? Tout ça, ça dépend de du contrôle des frontières externes. Et c'est ça le sujet primordial de notre présidence. Et c'est là-dessus que les ministres d'Intérieur, le ministre de Justice, entre autres, se retrouvent en coordination. Et nous avons, par exemple, maintenant, avec l'expansion de Frontex, entre autres, la question, est-ce que les employés de Frontex auront le droit de circuler aussi au sein des pays de l'espace Schengen.
Sur cette question migratoire et sur bien d'autres, Emmanuel Macron, le président français, dit qu'il y aura véritablement bataille entre les populistes, et j'imagine qu'il étiquette le FPE comme beaucoup parmi les populistes, le parti donc autrichien, et les progressistes. Est-ce que vous partagez son analyse de la bataille des prochaines élections européennes de mai 2019?
Les choses sont un peu plus compliquées que ça.
C'est-à-dire?
Parce qu'on peut pas dire que toutes les élections européennes vont se jouer juste entre populistes et progressistes. Nous avons quand même aussi d'autres sujets en Europe. Si je peux parler pour les Autrichiens, nous n'avons pas que cette catégorisation que vous venez de citer. Je suis désolée, je ne peux pas accepter une telle catégorisation de dire, voilà, il y a 50-50%. Ce n'est pas le cas, au moins pas en Autriche.
Madame la ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Une toute dernière question, quand même, la question qui fâche, hein, c'est celle de l'incident provoqué par votre mariage avec la présence de Vladimir Poutine. Vous dansez avec lui. Ça a beaucoup choqué dans le monde entier. Est-ce que, rétrospectivement, vous regrettez?
Non, je regrette certainement pas. Je ne peux pas vous dire que cela a choqué. J'ai eu beaucoup de... Par exemple, 10 jours après mon mariage, j'avais tous mes collègues du Conseil européen, le ministre des Affaires étrangères, chez moi en tant que visite. La critique venait de certains milieux journalistiques, mais ne venait pas du milieu politique.
Vous pensez qu'entre Vladimir Poutine au Kremlin et Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Europe est bien entourée?
L'Europe doit faire de son mieux pour être pris au sérieux, de vraiment agir en tant qu'un acteur qui sait distinguer entre ce qui est vraiment important et ce qui est moins important. Actuellement, nous nous trouvons dans une situation, si je puis dire, que de perdre notre temps, nos énergies avec nous-mêmes. C'est un fait. On a commencé notre conversation sur le Brexit. Cela demande beaucoup d'énergie et nous avons aussi le deux procédure selon l'article 7, notamment les interrogations avec la Pologne et maintenant avec la Hongrie. Donc, nous voyons les différentes déchirures au sein de l'Union européenne, et afin de faire face, et moi je parle pas seulement de Washington et de Moscou, peut-être, vous avez réduit ma personne à quelques citations, mais il y a un peu plus de ça. J'ai publié, entre autres, sur le défi chinois. Et pour moi, il ne s'agit pas maintenant de perdre notre temps avec ces questions-là, mais vraiment, le véritable défi pour nous tous se pose en Chine. Ça se pose sur des questions économiques, mais aussi sociales. Et c'est ça, à mon avis, le grand défi. Et là-dessus, en tant qu'Union européenne, et cela, je le disais aussi autrefois à plusieurs reprises, nous n'avons pas encore pris les mesures exactes.
Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre programme. À très bientôt. Restez sur nos deux antennes pour plus d'informations.